Colossiens chapitre 3 versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. J'ai intitulé ce message, et en fait le message de la semaine dernière, Comment s'habiller ? Et il y en a qui disent, ah, enfin, Pierre va parler un peu du code vestimentaire. Il y a trop de laisser-aller pour certains. Et non, je ne vais pas parler de si vous pouvez porter des jeans, des t-shirts, des cravates ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut porter. Mon fils ce matin me rappelait, alors que je lui demandais qu'est-ce qu'il allait mettre comme vêtement, m'a rappelé que notre mouvement, le mouvement auquel nous nous attachons, Calvary Chapel, a commencé justement par accepter les hippies, les pieds nus dans l'église. Alors je ne vous demande pas de venir pieds nus, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'attacher au code vestimentaire. Et ça marche dans les deux sens. Si j'arrive ici en short et en tongs le dimanche matin, peut-être que certains d'entre vous ne viendront plus ici. Si par contre je viens avec une cravate et un costume trois pièces, il y en a peut-être qui se sentiront mal à l'aise et diront « c'est pas pour moi ». Mais l'habillement dont il est question ce matin, c'est l'habillement spirituel. On avait vu que au verset 9, Paul nous disait qu'il fallait se dépouiller de la vieille nature. Et puis, avec ses pratiques, enlever des vêtements qui sont dépassés, des vêtements sales, des vêtements qui sentent mauvais. Et puis, revêtir, verset 10, la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Et donc, cette idée, cette image que Paul nous donne pour bien que ça rentre dans nos esprits, c'est d'enlever ce qui appartient à la vieille nature et de mettre, d'enfiler notre nature nouvelle. Alors, il n'est pas question, bien sûr, de prétendre enfiler une nature nouvelle. Ce n'est pas un vêtement qu'on mettrait pour cacher notre vieille nature qui serait toujours active et acceptée par nous. Ce n'est pas une question d'hypocrisie, c'est une question de transformation qui est imagée par cette représentation d'un vêtement qu'on enlève et d'un autre qu'on met à sa place. Et il continue donc en reprenant, il vient de dire qu'il n'y a pas de différence au point de vue de l'amour que Christ nous porte, qu'on soit grec ou juif, c'est-à-dire qu'on soit païen ou qu'on soit de la race d'Abraham, la race élue d'Abraham, que l'on soit circoncis ou incirconcis, ce n'est pas les rituels qui comptent, que l'on soit des barbares, il parle des Scythes qui étaient un peuple du nord de la mer Caspienne, qui étaient réputés pour leur sauvagerie, et il n'y a pas d'esclaves ou de libres, il n'y a plus de différence devant Dieu. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. Dans tous les autres domaines de la vie sociale, il y a des classes, il y a des hiérarchies, il y a des classements, il y a des tops, il y a des bottoms, il y a des gens en haut et en bas de l'échelle sociale, il y a des races, il y a des nationalités qui se croient plus faibles ou plus fortes que d'autres. Tout ça, ça disparaît en Christ. Et il continue plutôt verset 12. Ainsi donc, il revient toujours à ce qu'il a expliqué. Il a une argumentation très, très forte, toujours très logique, l'apôtre Paul. Comme des élus de Dieu, il dit à ces Colossiens, ces chrétiens colossiens, et il nous dit, à nous, chrétiens niçois, que nous sommes des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Et là, il va continuer en nous exhortant à faire certaines choses. Mais on va voir qu'il va parler de nos motivations profondes. Quelles sont nos motivations pour changer, pour enlever cette vieille nature et mettre les vêtements de cette nouvelle nature. Et là, il va nous montrer dans les versets 12 à 14 que une des raisons pour laquelle on veut changer dans notre cœur, c'est qu'on est au bénéfice de la grâce de Dieu. L'amour que l'on ne mérite pas, mais que Dieu nous offre. Et parce que nous réalisons que Dieu nous aime, pas parce que nous sommes religieux, pas parce que nous avons des qualités spéciales, mais parce qu'il nous aime. Ça doit nous transformer et vouloir revêtir cette nouvelle nature. Et cette grâce de Christ, elle se manifeste par le fait que Dieu nous choisit. Nous avons été élus par Dieu. Waouh, on a gagné les élections, on ne savait même pas qu'il y avait des élections. Et l'élection, on appelle ça des fois l'élection divine, le fait que Dieu nous choisisse, ça fait couler beaucoup d'encre. Et le plus souvent, les gens disent « Mais ce n'est pas juste !» Dieu en choisit certains, et puis les autres, ben, il ne les choisit pas, c'est comme s'il les rejette. Et c'est pas du tout le cas. C'est vrai que Dieu, dans sa toute connaissance, il a dit, tiens, un tel, c'est un de mes enfants, il va me choisir. Et on pense, mais Dieu a des chouchous. Dieu a des petits favoris. Il a choisi Pierre, mais il ne va peut-être pas choisir Jules ou quel que soit le nom du voisin. Ce n'est pas juste. Et lorsque les gens vous disent ça, la façon la plus simple de leur répondre, c'est de dire, si tu veux être choisi, choisis d'abord. Nous avons cette promesse dans Romains 10, 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ce n'est pas seulement mes chouchous, ceux que j'ai déjà choisis. C'est quiconque invoquera le nom du Seigneur. Si vous voulez être choisi, il vous suffit d'invoquer le nom du Seigneur, de dire oui, Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur et mon sauveur. Et la plupart du temps, les gens disent, mais je ne veux pas faire ça. Et vous pouvez leur dire, mais si tu n'as pas envie de faire ça, peut-être que ça veut dire que tu n'es pas choisi. Mais ce n'est pas juste. Mais dis au Seigneur que tu l'aimes et que tu veux le suivre. Non. Et cette idée que Dieu choisit ou élit des personnes, ça ne devrait jamais être un sujet de questionner sa justice. C'est peut-être simplement le signe que les personnes qu'il dit avoir élues, c'est celles dont il sait qu'elles vont dire oui. Mais encore une fois, tout le monde, personne n'est rejeté, tout le monde est accepté s'ils viennent à Jésus-Christ. Et ça, c'est important dans nos temps de favoritisme, de relations, de dites à ces personnes. Et on pourrait rentrer dans des grands débats théologiques sur l'élection de Dieu, etc. Mais c'est très simple. Si vous voulez venir à Dieu, si vous voulez que Dieu vous aime, vous lui dites oui. Il a sa main tendue vers vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lever votre petite main et dire « Je prends ta grande main, papa ». Donc ça ne doit jamais être un problème, l'idée de l'élection. Vous êtes des élus de Dieu, vous êtes saints. Et je sais dans votre esprit, il y en a qui se disent « mais je ne suis pas un petit saint, je ne suis pas une petite sainte, c'est pas pour moi, je ne dois pas être chrétien ». Le mot « saint », ça veut dire simplement « mis à part », réservé à un usage particulier. Si nous venons à Christ, nous sommes maintenant réservé pour son service. Il y a des ustensiles qui sont réservés à certains usages et pas à d'autres. Quand j'étais enfant, il y avait une blague de Katsu qui disait « Est-ce que tu connais la différence entre une casserole et un pot de chambre ?» Et si la personne disait « Non, je donne ma langue au chat », on disait « Ben, je ne viendrai pas manger chez toi ». Et de la même façon, si nous avons été sauvés par Dieu, nous n'avons plus à vivre comme des pots de chambre. De façon figurative, nous sommes réservés à son usage. Il y a des tas de choses que nous n'avons plus à faire. Nous sommes saints, nous sommes mis à part. Et puis, il nous dit aux Colossiens à nous niçois dans cette salle que Dieu nous aime. Dieu nous aime avec cet amour spécial de Dieu. On dit que lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont écrit en grec commun, le koiné, le Nouveau Testament, ils ont dû trouver un nouveau nom pour désigner cet amour, c'est le mot agapé. Et le mot agapé se différencie des autres mots parce qu'il veut dire un amour qui n'est pas mérité. C'est un amour qui est inconditionnel, qui ne change jamais, qui est totalement l'opposé de l'égoïsme. Il y a d'autres mots utilisés pour traduire amour dans la Bible. Il y a le mot eros que vous avez sans doute, dont vous avez sans doute entendu parler dans notre monde. Eros, c'était l'amour passionné, romantique, physique, mais c'est un amour qui est très égoïste. C'est « je t'aime pour ce que je reçois de toi ». Il y a un autre mot qui est le mot « storgé », qui est l'amour familial, l'amour que des parents ont pour un enfant. Je suis sûr que Élie et Sébastien, Paul et Zoé aiment déjà leur petit bébé, leur petite fille, bien qu'ils la connaissent très peu, ne connaissent pas son caractère, mais ils ont cet amour filial pour un enfant. On dit des fois de certaines personnes que seule une maman peut aimer une personne comme ça. Parce que c'est naturel. Dieu a mis ça en nous, peut-être pour la préservation de l'espèce. Cet amour qui dit « je t'aime parce que nous appartenons à la même famille ». Et puis il y a un autre mot qui est plus le mot qui parle d'un amour de compagnonnage. C'est le mot « philéo ». C'est la joie d'être ensemble. Et ça voudrait dire « je t'aime parce que pour ce que nous pouvons faire ensemble ». On est copains, on est bien ensemble, on fait des choses. Mais il a fallu trouver ce nouveau nom, agapé, cet amour inconditionnel qui ne dépend pas de celui qui le reçoit, mais de celui qui le donne. Celui qui le donne décide de le donner, et quoi que l'autre fasse, l'amour sera toujours là. Et c'est précisément l'amour avec lequel Dieu nous aime. Dans le verset le plus connu de toute la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », le mot « aimer », c'est le même mot « agapé ». Il a tant aimé le monde, pas les valeurs du monde, il avait tant aimé tous les hommes et femmes de toute l'histoire de l'humanité. C'est lui qui a eu l'idée de nous créer pour manifester son amour. On a eu une conférence très intéressante sur l'islam, à propos de l'islam la semaine dernière, et on a justement souligné, l'orateur a souligné que cet amour-là, il est seulement dans la foi chrétienne. Un Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il vous aime aujourd'hui? Vous dites non, madame. Je suis sûr que si je nettoie un peu ma vie, il va m'aimer encore davantage. Non, il vous aime d'un amour inexhaustible, d'un amour, je ne sais même pas si c'est français, qui ne peut pas s'épuiser, inépuisable, d'un amour sans fin, d'un amour au top tout le temps. L'amour de Dieu, ça, c'est la motivation la plus forte dans la vie pour faire quelque chose. Quand on fait quelque chose par amour, on fait ça sans compter, sans retenue. Par contre, les autres motivations comme la peur, l'orgueil ou tout d'autres tas de motivations auxquelles vous pourriez penser, on va faire juste ce qu'il faut pour accomplir un but. Mais quand on fait quelque chose par amour, une maman qui fait se sacrifier par amour, Dieu qui a envoyé son propre fils mourir pour nos péchés, on ne compte plus. Et donc, on devrait vraiment mettre ces nouveaux vêtements parce qu'on réalise, oui, que Dieu m'aime, je suis bien-aimé de Dieu. Revêtez-vous, encore une fois, mettez un vêtement d'ardente compassion. Une autre raison de la grâce, et on le verra, c'est que Dieu nous a pardonné dans les versets 13 et 14. Et là, il nous dit de nous revêtir d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je crois que c'est le début d'une liste dans son esprit, c'est pas exhaustif. C'est pas, vous faites ces cinq choses ou six choses et tout sera bon. Rapidement, qu'est-ce que c'est que les compassions? Le mot compassion, c'est en fait une traduction d'un mot qui veut dire les tripes. On pensait que le lieu des émotions, c'était dans nos tripes. Et c'est vrai qu'on dit quelque chose, ça vous prend les tripes. Ça vous fait mal au ventre. Des fois, quand on entend quelque chose raconter, une opération, « Ah oui, alors ils ont pris un grand scalpel bien aiguisé, ils ont coupé de là à là. » Et rien que d'entendre les choses, de l'imaginer un peu, ça vous perturbe. La digestion, ça vous fait un peu mal au ventre. C'est ça, ce mot de compassion, c'est de ressentir avec les autres ce qu'ils ressentent. C'est le même mot en latin que le mot sympathie en grec, le mot compassion. Mais là, c'est vraiment vos tripes. Est-ce que je ressens de la compassion pour les autres? Est-ce que je me mets dans la peau de leur situation? Trop souvent, j'entendais un reportage et ça m'a frappé. C'était Gilbert Montagnier, qui est un chanteur célèbre depuis des années en France, qui est aussi aveugle, qui a été nommé responsable à l'UMP des handicapés. Et pendant la conversation à la radio, il y a un des intervenants qui a dit: en fait, vous savez pourquoi est-ce que les dispositifs pour handicapés ne sont pas là en France, contrairement à d'autres pays? Il a dit: parce que les handicapés, à moins que ce soit personnel ou que ça nous touche dans notre famille, les handicapés, on s'en fout. Et c'est ce que ce mot veut dire, on n'en a rien à faire parce que ça ne nous touche pas, on n'a pas de compassion pour les handicapés. Ils ajoutaient qu'en fait en Allemagne ou en Suisse, il y a beaucoup plus de dispositifs d'accessibilité pour les handicapés, et je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit un chrétien, mais il disait parce que c'était une culture luthérienne, une culture chrétienne, le fait de penser à l'autre et pas seulement à soi-même. Et ça, c'est tellement important, et ça fait partie de cette nouvelle nature, de penser à l'autre, de l'avoir de la compassion, de ne pas se foutre de sa situation. Alors, des fois, c'est vrai, on est découragé, on se dit, il y a tellement de problèmes, je ne peux pas m'occuper de tout. Bien d'accord, mais vous pouvez faire une grande différence dans la vie d'une personne, d'une seule personne, d'un voisin, d'un parent, d'un ami. Nous avons dans notre assemblée des gens qui sont en détresse. C'est pas évident, c'est pas nécessairement connu de tous. Je suis sûr que maintenant des gens vont me dire: pourquoi tu as parlé de moi? Il y a des gens parmi nous qui sont dans la détresse et qui sentent qu'en fait on se moque bien de ce qu'ils peuvent vivre. Le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Je prie souvent que le Seigneur, par son Esprit Saint, me donne la sensibilité aux autres. Des fois, je m'aperçois que je peux côtoyer des gens complètement insensibles à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils éprouvent. Le Seigneur veut que nous ayons de la compassion. Il veut que nous ayons de la bonté. La bonté, de la gentillesse. Ça, c'est pas un mot qu'on utilise aujourd'hui, il est gentil. On dit plutôt, il est bien gentil. Il est un peu juste. Il n'est pas très malin, ou il est... Mais c'est une grande qualité, la gentillesse. Et vous connaissez, parmi nous, nous avons la joie d'avoir des personnes gentilles, des personnes toujours prêtes à vous écouter, toujours prêtes à vous aider. Quelle qualité, quelle réaction devant l'autre. L'humilité, c'était aussi une qualité qui n'était pas du tout à la mode avant que le Nouveau Testament n'en parle ainsi. L'humilité, on pense que c'est de la faiblesse. Il faut s'affirmer. Il y a quelques années, il y avait je crois que c'est moins en vogue, peut-être je me trompe, des cours pour savoir s'affirmer. On vous expliquait qu'en fait votre vie est mauvaise parce que vous ne frappez pas du poing sur la table, vous laissez les autres vous manger. Mais vous avez des cours de self-assertion ou de affirmation de soi pour être le plus fort et plus vous laisser dicter votre conduite par les autres. Des fois, on a l'impression que l'humilité, c'est ne plus penser à soi. fait, ça peut être ça, ça peut être du genre « Oh, c'est bien ce que vous avez fait. Oh non, c'est rien du tout. » Et ça, c'est une forme de fausse humilité qui est en fait de l'orgueil. Dans Romains 12, 3, il est dit que nous sommes appelés à avoir une juste opinion de nous-mêmes. Mais l'humilité, en fait, c'est ne plus penser à soi. C'est être libéré de ce que les autres pensent de moi ou ce que comment je me considère vis-à-vis des autres. Plus vivre pour paraître, mais vivre en fixant mes yeux sur l'autre, l'humilité. Et là aussi, l'humilité, c'était un défaut. C'était un défaut avant la foi chrétienne. Et quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est approchable. Cette personne ne va pas se mettre en avant, elle ne va pas vous faire sentir qu'elle a des qualités supérieures aux vôtres, que vous êtes un nul et qu'elle a tout compris. L'humilité, c'est quelque chose de rafraîchissant. C'est presque comme un oasis auquel on peut se désaltérer. On peut être authentique devant des gens humbles. Il n'y a pas cette compétition qui fait que des fois, avant même d'écouter ce que l'autre vous dit, on cherche à dire quelque chose d'encore mieux. Il m'est arrivé telle chose. Ah oui, mais bon, maintenant je vais lui dire, moi, il m'est arrivé une chose encore mieux que ça. Dans l'humilité, on s'oublie et on est tout oui pour l'autre. Revêtez-vous de douceur. La douceur, dans ce sens-là, c'est pas une faiblesse non plus, c'est au contraire une puissance contrôlée. C'est le mot qu'on pouvait utiliser pour faire la différence entre un petit vent qui fait du bien comparé à une tempête. La différence entre un remède, un médicament qui vous fait du bien et un poison qui vous tue. C'est la différence entre un étalon sauvage qui va tout casser et le même étalon qui a été dompté pour le service de son maître. La douceur. Dans notre société encore, il y a toujours cet ordre hiérarchique, implicite ou explicite. Et ça commence tôt, à l'école. Quand on fait des équipes pour jouer au ballon prisonnier, est-ce que vous étiez le dernier à être choisi en disant, bon ben, il n'y a plus que Pierre, bon, on va le prendre. Toutes ces qualités, ça met l'autre en valeur, ça lui reconnaît sa nature divine, son unicité. Et puis, il est question de patience. Et je tiens à vous dire, et vous le savez, que lorsque je partage ces choses, je ne me donne pas en exemple. Alors on a des termes, au lieu de dire que c'est un péché d'être impatient, on dit qu'on a une nature, un type A. J'ai un type A, je veux toujours des résultats tout de suite. La patience, c'est quelqu'un qui prend le temps de réagir. Qui n'explose pas tout de suite. C'est le contrôle de soi. Et puis, il nous dit de nous supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Il savait, voilà, 2000 ans, qu'on aurait des problèmes entre nous. Qu'on aurait du mal à se supporter. C'est surprenant, non ? C'était un prophète ou quoi ? C'est la nature humaine, on est tous différents, on a tous à s'adapter à l'autre. On a des attentes différentes. On a une éducation, un arrière-plan différent. On a des capacités physiques, mentales, intellectuelles différentes. Mais on doit se supporter, s'encourager l'un l'autre. C'est un mot qui revient dans la Bible, les uns les autres. On n'est pas tout seul. On vit dans une société où on a l'impression qu'on peut vivre indépendamment des autres. Faites-vous grâce réciproquement. Ça veut dire ça? Pardonnez-vous. C'est abandonner le droit d'avoir des représailles. Ça, c'est le coût du pardon. Cette semaine, mardi soir, on aura cette présentation de Portes Ouvertes qui milite un ministère qui aide les chrétiens persécutés de par le monde, qui s'appelle « Le chemin du pardon ». Je ne connais pas le film, mais j'imagine qu'il y aura des choses qui vont nous toucher. Quand quelque chose de mal nous est fait, et dans le cas de Portes Ouvertes, on peut imaginer le pire, des familles détruites, des parents emprisonnés, abandonner son droit de réagir et de payer en retour. Faites-vous grâce réciproquement. Ça marche dans les deux sens, se pardonner. Parce qu'un jour, c'est moi qui ai besoin de te pardonner et demain, c'est toi qui as besoin de me pardonner. Et puis, nous avons un exemple. Le Christ nous a fait grâce. Il nous a pardonné quelque chose de beaucoup plus fort que tout ce que nous pouvons pardonner. Vous vous souvenez de cette parabole de celui qui devait de l'argent à son maître et son maître lui faisait grâce. Mais en retour, cet homme qui devait de l'argent était intraitable avec quelqu'un qui lui devait une toute petite somme d'argent. Et de la même façon, nous, lorsque nous sommes intraitables en ne pardonnant pas ceux qui nous ont offensés, nous oublions que Christ, Dieu par Christ, nous a pardonné quelque chose de bien plus énorme. Éphésiens 4, 32 nous dit qu'en fait, pardonner, c'est imiter Christ. On dit souvent que notre but, ici-bas, selon Romains 8, c'est de devenir semblable à l'image de Jésus, de devenir de plus en plus comme Christ. Soyez bons, verset 32 de chapitre 4 d'Éphésiens, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Nous avons cet exemple, nous avons cette raison de pardonner l'autre. Combien de fois devons-nous le pardonner ? Sept fois 77, 489, mais pas 490. Donc Jésus, dans le sermon sur la montagne, voulait nous dire que nous devons pardonner et pardonner. Et c'est intéressant parce que il y a plusieurs années, je me plaignais à quelqu'un du fait qu'un frère me disait du mal de moi et après venait me demander pardon. Et je lui disais, une fois ça va, deux fois ça va, mais il ne faut pas exagérer. Il m'a dit, attends, je croyais qu'il était question de 7 fois 77. Oucht! On penserait que si on prend l'habitude de pardonner, ça devient de plus en plus facile, mais à chaque fois, ça coûte. Ça coûte ce droit de réagir, faire des représailles envers l'autre qui nous a blessés, l'autre qui nous a fait du mal. Ça fait donc partie des nouveaux vêtements. Et puis, il a cette phrase formidable, il dit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour, c'est ce qui permet à toutes ces choses de tenir en place. C'est le lien, c'est ce qui touche toutes ces choses et qui permet qu'elles soient en place et qu'elles ne tombent pas par terre. L'amour qui est le lien de la perfection. Alors le mot perfection, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à être parfait ici-bas, mais ça va être un signe de notre maturité en tant que chrétien. Un chrétien mûr, ce n'est pas un chrétien qui a des tas de règles qu'il respecte. C'est quelqu'un qui aime Dieu et qui fait ce qu'il veut. Parce que s'il aime Dieu, l'amour de Dieu est en lui, il va se manifester par ses nouveaux vêtements, cette nouvelle nature que nous devons porter parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous a mis à part et Dieu nous aime. Et c'est le même mot « agapé » qui est utilisé ici, cet amour inconditionnel. Il y avait quelques années, il y avait une publicité pour une boisson qui était une boisson au goût venu d'ailleurs. Il y en a peut-être qui se souviennent du nom, mais on ne va pas faire de concours. L'amour agapé, c'est un amour venu d'ailleurs. Ce n'est pas un amour qu'on peut susciter en nous-mêmes de façon humaine. C'est un amour qui vient de Dieu. Lui qui l'a manifesté envers nous, il peut nous le donner. Et il y a un passage très important pour bien comprendre ça dans Romains 5. Page 174. Paul faisait encore une de ses raisonnements logiques. À partir du verset 3, page 174. Bien plus, nous nous glorifions de même dans les tribulations, c'est-à-dire dans les épreuves, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu, cet amour agapé, est répandu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour. Si vous essayez de le fabriquer, ça ne marchera pas. Ça va être un amour de résolution qui ne va pas durer bien longtemps. À la première offense, à la première incartade, le masque de ce faux amour agapé va tomber et on verra que ce n'est pas un amour qui vient de Dieu, l'amour que vous avez revêtu comme des élus de Dieu, des saints, des bien-aimés. Par-dessus tout. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous n'avez pas à vous soucier d'une liste de choses à faire. La chose la plus importante, 1 Corinthiens 13, 13, le grand passage sur l'amour agapé. Relisons rapidement ce chapitre. 13 de 1 Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, formidable, toute la connaissance, incroyable, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, pratique, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est bien quand même, quand je lèverai même mon corps pour être brûlé, ça c'est des martyrs, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, le retour de Christ, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, devinez quoi, c'est l'amour. Aimer Dieu et faire ce qu'on veut. C'est incroyable ça. C'est la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'on vous demande? D'aimer Dieu. Oui, mais attends, y a pas des... comment tu t'habilles le dimanche? Non, aime Dieu et fais ce que tu veux. Si tu aimes Dieu, tu vas prendre soin de ton voisin, tu ne vas pas chercher à l'offenser, tu ne vas pas chercher à le provoquer, tu vas le pardonner, tu vas être humble avec lui, tu vas l'encourager. Toutes ces qualités qu'on vient de voir, en fait, l'amour les comporte, l'amour les inclut, l'amour est le lien de la perfection. Libre de nos chaînes, on ne veut pas de chaînes, on ne veut pas de liens, sauf le lien de la perfection, le lien de l'amour, ce qui nous unit ensemble. Ça, c'est la grande motivation, comprendre la grâce de Dieu, comment Dieu nous aime alors que nous ne le méritons pas, comment il veut nous transformer si nous prenons la décision consciente avec l'aide du Saint-Esprit de faire ces choses, de vivre ainsi. Et puis il ajoute, verset 15, un autre élément, une autre motivation que nous devons chercher dans nos cœurs, la paix du Christ. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la paix du Christ, Dieu, Christ nous a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Il nous donne sa paix complète. Et il nous dit par ce verset qu'en fait, c'est cette paix qui doit nous servir de repère dans nos décisions, dans nos actes. Est-ce que lorsque je fais telle ou telle action, que j'envisage telle ou telle action, mon cœur est en paix devant Dieu, ou est-ce que il y a du tourment, est-ce qu'il y a de l'inquiétude, est-ce qu'il y a des remords, des peurs? C'est un mot très intéressant, il dit que cette paix doit régner dans nos cœurs. Et le mot qui est utilisé pour régner, en fait, on pourrait traduire ça que la paix du Christ soit l'arbitre dans votre cœur. Le terme qui est utilisé fait référence justement à ces juges qui jugeaient les compétitions sportives et qui jugeaient si quelqu'un avait fait une faute dans l'exercice qu'il devait faire, s'il était parti trop tôt, s'il avait mordu sur la ligne de départ ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi la personne qui remettait les médailles, la médaille d'or, de bronze, d'argent, de bronze. Et aujourd'hui, on le voit, c'est un métier très difficile, c'est une occupation très difficile. Il y a de moins en moins de gens qui veulent être arbitres parce qu'on vit dans une société où lorsque les gens ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre, ça devient très dangereux pour l'arbitre. Il faut la protection policière de l'arbitre. Mais là, il est question de cette paix qui nous dise « Oui, ça c'est bon, vas-y, ouais, ça c'est bien ». Je suis d'accord avec ça. Ou alors, justement, on n'a pas la paix parce que l'Esprit Saint veut nous dire non, c'est pas la bonne décision, c'est pas la bonne solution. Lorsque vous prenez des décisions importantes, veillez à avoir cette paix du Christ dans vos cœurs. Elle est comme l'arbitre qui va siffler s'il y a un carton rouge ou un carton jaune même. Et au contraire, qui va dire, c'est bon, allez-y. Que cette paix du Christ soit donc une motivation de rechercher toujours à ne pas troubler, à ne pas aller contre cette paix. Qu'elle règne dans vos cœurs, qu'elle y soit bien, que ce soit elle qui mette la paix, qui dirige votre vie. Et puis il y a cette petite phrase, avec la paix du Christ, il y a associé « soyez reconnaissant ». Soyez reconnaissant, dites merci. Fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est pensez que vous avez eu quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Le fait d'avoir cette attitude d'esprit, de penser, dire merci Seigneur pour cette chose, ou dire merci à quelqu'un pour ce qu'ils sont pour vous. On parlait il y a peu de temps après le deuil d'Aude et d'autres personnes que trop souvent on attend que les gens soient partis pour leur dire merci pour qui ils sont. Merci pour ce qu'ils nous apportent. Merci pour l'espoir, l'exemple qu'ils peuvent être pour nous. Soyons reconnaissants et manifestons-le. C'est pas le tout de dire merci dans son cœur, des fois il faut le manifester. Avec le Seigneur, bien sûr, vous pouvez déjà le dire et le partager. Lorsque les gens vous disent, tiens, ça c'est bien, dit oui, non, le Seigneur est bon avec moi. Ou lui donner toujours la gloire, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui nous donne toutes bonnes choses. Jacques 1, 7, 17, tout bon cadeau, tout cadeau excellent vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation. Toutes les bonnes choses dans votre vie, elles viennent de Dieu. Est-ce que vous lui dites merci? Ou est-ce que vous les prenez pour moi? Il y a des gens qui ont les mêmes choses, ils ne disent pas merci, pourquoi est-ce que je devrais dire merci? Parce que vous avez la chance de savoir que ces choses, elles viennent du Père des Lumières. Si vous avez plusieurs enfants, vous savez que c'est toujours touchant lorsque l'un ou tous, mais s'il y en a un qui vous dit merci pour quelque chose, parce qu'il réalise qu'en fait, c'est une grâce que vous lui avez faite de préparer un repas pour lui, d'avoir lavé ses vêtements. Les mamans doivent savoir que ce n'est pas souvent que les enfants viennent dire « Merci maman d'avoir fait le repas ». Peut-être, mais soyons reconnaissants. Une autre motivation pour remettre ses vêtements, c'est que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. La parole du Christ, qu'elle se sente, qu'elle habite en vous, c'est-à-dire qu'elle soit comme à la maison chez vous. Est-ce que la parole de Dieu, elle est à l'aise là où vous vivez? Ou est-ce que vous vivez en contradiction avec la parole? Est-ce que la parole demeure en vous? Et là aussi, je vous invite à toujours ne pas penser que le « vous » de la Bible, c'est un « vous » individualiste. Est-ce que la parole de Dieu habite en Pierre avec sa richesse? C'est une bonne chose, mais est-ce que le « vous », c'est aussi un « vous » collectif? Est-ce que la parole de Dieu habite dans l'Église? Dans les églises, dans l'assemblée du peuple de Dieu, dans la ville. La parole du Christ, la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la foi. La parole vient de ce qu'on entend, la parole, et la parole vient de Christ. Romains 10, 17. Est-ce que cette parole vous la connaissez? Est-ce que vous l'étudiez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette parole autant qu'elle est à l'aise avec vous dans votre demeure, de la demeure de votre cœur, mais aussi dans la façon dont vous vivez? Elle est riche, cette parole. Amen. De Timothée 3,16, toute parole, lisons-le ensemble. De Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Sachez que vous ne pouvez pas faire de progrès dans la vie chrétienne si vous ne faites pas des progrès dans la parole de Dieu. Certains pensent que, bon, ils en savent assez, maintenant ils vont les mettre en pratique. Maintenant ils vont aller servir les orphelins, ils vont aller servir les plus démunis, ils passent à la pratique. Ils ont eu un peu de théorie et maintenant ils passent à la pratique. Ce n'est pas du tout le cas. Vous ne pouvez grandir que si vous êtes nourri par la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Est-ce que vous mettez une importance sur la parole? Ou est-ce que c'est quelque chose un peu accessoire? Vous avez entendu parler, vous savez où elle est. Vous savez où est votre Bible en général? Sur la table de chevet ou dans le salon, peut-être elle a de la poussière dessus. Ou alors, elle est bien utilisée, elle tombe en lambeaux. Il y en a qui ont des Bibles qui tombent en lambeaux. Amen. Voilà, ça c'est une... c'est pas pour... Marie-Christine a honte parce que sa Bible est réparée au duct tape. Au scotch. Alléluia. Une Bible comme ça, elle n'est pas restée sur l'étagère pendant 10 ans. Est-ce que vous venez aux études bibliques? Je suis toujours déçu, pas parce qu'on ne vient pas m'écouter, peut-être que c'est aussi moi qui dois revoir certains... Là, on est lancé dans un survol de la Bible. Mais certains ne penseraient pas manquer le culte du dimanche, mais les études bibliques de la semaine, c'est pour les super saints. Ou c'est pour ceux qui ont le temps, qui font que ça, c'est pour les équipiers, c'est pour le pasteur et sa femme. Je suis toujours désolé quand je m'aperçois des lacunes que nous avons parmi nous. De connaissance de la Bible ou de questions qui ne devraient plus être des questions qui devraient être résolues parce qu'on étudie ces choses à longueur d'année. Ça fait 20 ans qu'on est là, mais bien sûr, il y en a qui n'ont pas encore 20 ans. Mais je suis toujours frappé par le peu d'intérêt qu'on donne à lire, étudier, mémoriser, être imprégné de la parole. Vous ne pouvez pas faire de progrès. Vous pouvez être très religieux en faisant des bonnes actions, mais si vous faites des bonnes actions sans savoir pourquoi vous les faites, elles ne valent absolument rien. C'est faux dans le sens où ça fait du bien à quelques-uns. Je retire cette façon extrême de décrire la chose. Mais si vous ne comprenez pas la relation avec Dieu, ça veut dire que, en fait, votre motivation, ce n'est pas l'amour de Dieu. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont fiancés ou qui ont quelqu'un qu'ils ont en vue pour être peut-être un compagnon pour la vie. Est-ce que lorsque vous recevez une lettre de la personne aimée ou un email, même s'il est très long, s'il faut appuyer sur la truc pour dérouler tout le texte dans Facebook, est-ce que vous dites « Oh !» Je vais aller au cinéma, puis peut-être que si j'ai le temps, je verrai, peut-être dimanche prochain, je lirai. Non, vous sautez sur la lettre, vous la lisez une fois, deux fois, vous la regardez à l'envers, à l'endroit. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Si vous l'aimez vraiment, vous voulez savoir ce qu'il vous dit. Moi, quand j'ai découvert la Bible, je pouvais écouter 20 sermons dans la semaine. Est-ce que vous avez cette soif? Est-ce que vous voyez que Dieu vous parle, que Dieu nous parle? Est-ce que la parole du Christ habite en nous? Il n'y a pas d'âge. La première fois que vous la lisez, vous la découvrez. La 20e fois, vous allez encore la découvrir. À chaque fois, elle est si riche avec sa richesse qu'elle n'est jamais épuisée. Il y a toujours quelque chose de neuf, toujours quelque chose qui va vous parler. Si vous faites 2-3 études, si vous faites une étude personnelle, si vous allez à des classes, si vous allez au GBU faire une étude, si vous venez ici faire une étude, vous allez voir que Dieu va vous parler de façon très simple. Le même sujet va revenir et vous allez comprendre, même si vous avez la tête dure comme je l'ai, et peut-être que Dieu est en train de me dire quelque chose. Non seulement on en a parlé dimanche matin, mais après j'ai reçu une carte postale de telle personne qui me donnait exactement le même verset. Si vous venez une fois par semaine, le Seigneur a plus de mal à vous taper sur la tête. La parole du Christ, qu'elle habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Ce n'est pas seulement le pasteur qui fait ça. Réciproquement, vous dans l'assemblée, les frères et sœurs, vous pouvez partager un enseignement que vous avez reçu. Tiens, ce matin, je lisais ça dans mon passage. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça m'a vraiment encouragé parce que je me suis dit, oui, après tout, il faut voir les choses avec la perspective éternelle. Et vous pouvez le faire, non seulement vous instruire, mais vous avertir si vous voyez que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, sans dureté, dire, je crois que là, c'est dangereux ce que tu fais. J'ai remarqué, tu viens plus au culte, ça fait 4 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'éloignes de Dieu? Le faire avec amour, pas pour juger ou condamner, mais pour avertir en toute sagesse. Et puis là, j'aime bien ce verset, là, c'est un peu la... On pourrait caricaturer, c'est la comédie musicale. Instruisez-vous, avertissez-vous en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Allah, je crois que le Seigneur est bon aujourd'hui. Alors là, je plaisante, bien sûr. Mais tout à l'heure, lorsque nous chantions ensemble, je suis toujours, toujours bouleversé quand je sens la présence du Seigneur dans nos chants, lorsque je sens que l'Assemblée chante à Dieu, que Dieu est là, que vos cœurs sont vers lui. Et je me rappelle, la première fois, Paul s'en souvient lorsqu'on est venu visiter ce local et de voir ce vieux local tout mal fichu, plein de gravats. On peut vous montrer des photos si vous êtes curieux. Et comment le Seigneur peut en faire une belle chose qu'il utilise pour sa gloire. Je suis toujours ému lorsque je vois une assemblée qui loue le Seigneur dans ces lieux. Alors qu'avant, il y avait un chien qui faisait pipi partout. C'était sa niche, j'allais dire sa caniche. Non, c'était pas un caniche, c'était un gros chien qui perdait ses poils, qui surveillait le bâtiment parce que c'était un garage. Il y avait des voitures garées jusqu'ici. C'était tout tombé en ruine. Et le Seigneur fait qu'on peut chanter sa gloire dans ces lieux. Et je me dis, il n'y a que toi, Seigneur, pour transformer ainsi un lieu, et je crois qu'il peut faire ça dans chacune de nos vies. Vous venez à lui avec vos vieux vêtements et vous dites, dégage ça, on va te mettre des vêtements propres. Des vêtements qui vont te permettre de m'adorer, de me louer, de me glorifier. Alors certains voient dans les différents types de chants qui sont mentionnés, les psaumes, des psaumes, ce serait donc des chants basés sur le texte de l'Ancien Testament, sur les textes des psaumes, et c'est toujours très bien de chanter des textes bibliques. D'abord, ça vous aide à les mémoriser d'une façon très agréable, vous n'y pensez même pas, mais vous les connaissez par cœur. Et puis, c'est des textes qui ont été écrits par Dieu. Donc on ne peut pas faire d'erreur en chantant les textes qui ont été écrits par Dieu. Des hymnes, on pense que ce sont des chants qui déclarent des vérités bibliques. Des cantiques spirituels, la même chose. Alors là aussi, il y a plein de théories de... Ça pouvait être peut-être des chants du monde qui avaient été transformés avec des paroles à la gloire de Dieu. Peu importe. On peut s'instruire par les chants. J'aime bien les chants lorsque on chante des chants qui donnent de la doctrine. Qui ne sont pas seulement « Seigneur, tu es grand », ce qui est de la doctrine. Et puis qui s'arrêtent là, on répète 3-4 fois. Puis il y a des fois des textes, on les voit, on dit « Oh là là, on ne va pas faire tous les chapitres, là, toutes les strophes ». Mais en fait, on apprend, on peut s'instruire par des chants. Est-ce que vous écoutez de la musique chrétienne ? La musique, c'est tellement important. Maintenant, on peut être branché 24 heures sur 24. Il y a des personnes, on aimerait avoir un petit appareil qui, comme ça doit être. Si un entrepreneur, il y a un truc à faire, c'est avoir un système comme pour les avions, où le capitaine peut vous parler. Hey, on va descendre là, remettez vos sièges droits, rabattez les tablettes, etc., remontez les tablettes. Mais on est tellement pris par le son, on a l'impression qu'on ne peut plus avoir l'attention des gens. Si on écoute des choses où c'est Dieu qui est glorifié, au moins il peut nous parler, au moins on peut être sensible à sa petite voix. Chantez à Dieu de tout votre cœur, à tue-tête, sans honte, sans gêne. Quoi que vous fassiez, et puis pour couronner tout ça, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur. Est-ce que tout ce que vous faites, vous pouvez dire, je le fais au nom du Seigneur, je n'ai pas à le cacher de Dieu. Dieu ne serait pas gêné par ce que je suis en train de faire maintenant. Faire quelque chose au nom de quelqu'un, c'est le faire avec l'autorité que le nom de cette personne nous confère. Comme un ambassadeur va parler au nom de son gouvernement, du pays qu'il envoie. Parler au nom du Seigneur, c'est déjà dire la vérité. Faites tout. Et ne dites pas le dimanche matin, lorsque vous venez au culte, faites les choses au nom du Seigneur Jésus. C'est déjà bien, mais tout dans votre vie. Ça veut dire qu'on reste cloîtré, qu'on... Si j'ai bien compris, Pierre, alors on doit rester enfermé, plus sortir, lire la Bible tout le temps, et quand on parle aux autres, on doit chanter des versets bibliques. C'est bon ? Vous avez tous compris ? Non. Faites tout, même les choses drôles. La grâce de Dieu. Dieu est un Dieu qui veut... votre bonheur. Votre bonheur ultime. Des fois, on passe par des épreuves, des choses difficiles, mais je suis sûr que Dieu aime rire. Dieu aime la joie. Lorsque vous vous amusez, faites-le au nom du Seigneur. Lorsque vous vous retrouvez entre amis pour faire la fête, faites-le au nom du Seigneur. Pas au nom de Satan, en ingurgitant de l'alcool pour être plus désinhibé, pour faire n'importe quoi, l'immoralité sexuelle. Non, en fait, on peut s'amuser en tant que chrétien, est-ce que vous le saviez ça ? Faites tout au nom du Seigneur, votre travail, votre feuille d'impôt, votre repas de midi ou de 2 heures. Faites-le comme pour le Seigneur. Faites-le au nom du Seigneur. Voilà, la semaine prochaine, on va voir des choses très pratiques au niveau familial. Priez pour moi. Je dois prendre aux femmes qu'elles doivent être soumises à leur mari. Mais là aussi, on va voir qu'il y a des tas de fausses conceptions et que le Seigneur est bon. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité qu'elle nous révèle, Seigneur. Si nous demeurons dans ta vérité, alors Seigneur, tu nous dis que nous sommes libres. Nous sommes libres de tous les liens sauf celui de l'amour. Le lien parfait de l'amour. Le lien de la perfection. Aide-nous, Seigneur, à nous dévêtir de notre vieille nature. Aide-nous à revêtir avec joie ces attributs, Seigneur. Merci d'avoir été l'exemple pendant ta vie terrestre, Seigneur Jésus, de ces qualités. Comment tu mettais en pratique ces choses-là et surtout comment tu es descendu du ciel par humilité pour mourir pour mes péchés, pour mourir pour nos péchés. Seigneur, fais de nous un peuple joyeux de vivre dans la lumière de cette nouvelle nature avec ces nouveaux vêtements. Seigneur, merci d'enlever tout légalisme, tout ascétisme, tout mysticisme, tout pseudo-intellectualisme de notre cœur, de notre vie d'assemblée, Seigneur. Et que ce soit l'amour qui règne, Seigneur. Cet amour qui fait que le monde verra que nous sommes tes disciples. Seigneur, je prie s'il y a des disputes, s'il y a des souffrances, aide-nous à pardonner, Seigneur. Aide-nous à recevoir et à donner le pardon en nous rappelant du grand pardon que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, veille sur nous. Tu sais combien nous sommes prêts à nous perdre, à errer, à revenir à nos chaînes. Merci de nous rappeler aussi que c'est une détermination de notre part de mettre cette nouvelle nature avec l'aide de ton esprit. Sois à l'œuvre dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre église, dans ce quartier, dans cette ville, dans la France. Sois glorifié, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen.